On va découvrir comment l'idée du canal du Midi a bien pu germer dans la tête de Pierre-Paul Riquet, ou en tout cas, Jean-François, comment vous imaginez qu'elle a pu naître.
Je vous amène sur l'acropole bitéroise, là où il y a la cathédrale Saint-Nazaire. Et là, on va observer cette vallée de l'Orbe avec en bas le pont romain. Et puis, on va se retourner parce que derrière, les cloches sonnent à toute volée. Et la ville, vous l'entendez, elle bruisse de mille réflexions, de mille commentaires. Nous sommes le 2 mai 1618 et le Conseil des Trente va se réunir.
Esaco, le Conseil des Trente.
C'est le Conseil municipal. Ah. Et ce Conseil municipal doit débattre d'un projet, écoutez bien, tout absurde, un projet de canal que le duc de Montmorency met en avant avec un certain Haribat et souhaiterait même le faire financer par la ville de Béziers en partie.
Mais ça marchera jamais.
Mais non, ça marchera jamais, il n'y a pas d'eau. C'est ce que disent la majorité du Conseil des Trente. Non, hors de question que Béziers se lance dans une aventure aussi absurde à laquelle ni les Romains ni François Ier n'ont réussi à répondre.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde va dire « Niette, c'est pas possible ».
29 sur 30 disent non à ce projet et de manière très très virulente, sauf un certain Jean de Millau qui du reste devra s'exiler un jour. Parmi ces 29, il y a un certain Guillaume Riquet.
Qui lui a dit non donc, mais alors Riquet ça m'interpelle.
Ah,
pourquoi
ben,
il s'appelle Riquet?
Ah oui, il s'appelle Guillaume Riquet parce que c'est le père d'un certain Pierre-Paul, qui est un jeune, un adolescent, et qui va retrouver à la table le soir.
Et... En train de manger la soupe,
ben oui, et puis
pain.
Il va commenter ce qui vient de se passer. Pierre-Paul Riquet, peut-être à ce moment-là, entendant son père dire « jamais, jamais, un canal verra le jour sur le Languedoc », peut-être que Pierre-Paul a dit « moi, je le ferai ce canal, parce que moi, je connais ma montagnette ».
Alors notre Pierre-Paul Riquet a bien grandi.
Grâce à son parrain, François de Portugnac, il a réussi à avoir un poste d'assistant, d'administrateur au Gabel de Revel.
Les Gabels, c'est l'impôt sur le sel. Donc son job, c'est ça.
Voilà, percepteur.
Collecter l'impôt.
Oui, disons-le
gabelou.
Tout net. C'est un gabelou. Et il va profiter de ce lieu-là qui a été choisi, c'est certain, par toujours cette volonté qu'il a, désormais, de bâtir le projet d'un canal. Rappelez-vous, il a ce projet dans la tête depuis son adolescence, probablement. Cette idée l'a pénétré au point qu'il en est quasiment obsédé.
Irrigué.
Alors on peut le voir à cheval parcourir les flancs de la Montagne Noire, celle dont il sait, parce qu'il la connaît bien, qu'elle est propice, que c'est un château d'eau à des rivières d'éternelles coulées.
Donc c'est pas du tout par hasard qu'il a choisi cet endroit.
Certainement pas. Parce qu'il a commencé d'ores et déjà à les répertorier, à faire des rencontres, à interroger. Vous voyez, il est connu ce monsieur Riquet qui passe sur son cheval, qui arpente, qui descend, qui touche le sol. Il intrigue même certainement ceux qui le croisent.
On doit un peu le prendre pour un fou parfois, non?
Ouais, mais je pense qu'il est proche des gens parce qu'il parle cet occitan-là qui est parlé par tous. Il n'a pas figure de noble. Il est proche des gens, déjà. Paul Riquet est désormais fermier général des Gabels en Languedoc. Et alors, évidemment, il a hérité d'une fortune confortable. Au départ, il avait à peu près l'équivalent d'un million de livres. C'est pas rien, héritage de son père. Mais en même temps, son sens des affaires, il a un sens profond des affaires. Là aussi, peut-être un héritage familial. Il commerce avec l'armée, il vend du drap, voyez. Donc, il est sur des marchés publics. Pierre-Paul Riquet est un homme d'affaires. Et cet homme d'affaires installé complète un peu son patrimoine. Il achète une gentilhommière du côté de Toulouse, dans les environs, à Bon Repos, où il va s'installer avec sa famille. Vous verrez que c'est utile d'être à Bon Repos. Et d'abord, il reste toujours en proximité de sa montagnette, de la Montagne Noire, de quoi? De son château d'eau. Parce que vous le savez, le canal ne peut se faire que si on est certain qu'il aura de l'eau. Ça commence comme ça.
Alors justement, est-ce que sa réflexion sur l'alimentation en eau de son fameux canal, est-ce qu'elle avance?
Ah oui, elle est quasiment aboutie. Il a tout compris.
Mais tout est dans sa tête.
Ah, plus que dans sa tête, à mon avis, il y a aussi des plans.
Il y a des dessins.
Il a repéré toutes les petites rivières qui coulent depuis la Montagne Noire, et dont il s'est dit, ben voilà, moi je vais faire un collier sur ce flanc de montagne et amener les eaux à un point donné, et à partir de ce point donné, les conduire par pente naturelle jusqu'à un point de partage, et voilà, un peu vers l'océan, un peu vers la Méditerranée, et mon canal sera prêt. Alors, prêt à présenter. Mais
oui.
Pour l'instant, on en est là.
Sur le papier, ça a l'air évident, facile.
Mais sur le papier, c'est déjà là. Les dessins sont là. Le repérage est fait. Pierre-Paul Riquet est maintenant en ordre, je vais dire en ordre de bataille, pour aller un peu plus loin dans son projet de canal.
Nous voici dans le Lauragais, Jean-François, et on va retrouver Pierre-Paul Riquet au seuil de Naurouze. Qu'est-ce que c'est le seuil de Naurouze ?
Nous sommes au seuil de Naurouze, c'est-à-dire nous sommes dans le lieu supposé du point de partage des eaux entre la Méditerranée et l'océan, ce qui pourrait être le point où les eaux récupérées dans la montagne noire se sépareraient en part égale vers l'océan et la Méditerranée. Mais approchons-nous doucement. Pierre-Paul Riquet est assis sur ces fameuses pierres. Regardez-le, pensif. Peut-être un sourire se dessine encore sur son visage. Parce que il le tient, son point de partage, sur ces fameuses pierres. Vous savez, ces pierres de Naurouze, vous les avez encore aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier, de mystérieux, ces pierres ?
Nostradamus, oui, dans une de ses prophéties, prétend que le jour, vous savez, elles sont fendues. Ouais. Le jour où elles se réuniront, ce sera la fin du monde. Bon. Pour l'heure, ces pierres-là, telluriques, sur lesquelles est assis notre inventeur, sont le signe de la réussite, presque, de son projet. En tout cas, ce point de partage, il le tient. Et tenant le point de partage, il peut enfin construire de façon, solide, le projet de canal.
1662, chez Pierre-Paul Riquet, au domaine de Bon Repos, on n'est pas très loin de Toulouse, et c'est fête aujourd'hui, Jean-François.
Ah, c'est une fête extraordinaire. Monseigneur d'Anglure de Bourlemont, qui est l'archevêque de Toulouse, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le représentant du roi, la province du Languedoc. Et là, Riquet sent que les choses se précisent. Il a construit sur son domaine de Bon Repos une maquette, une sorte de maquette, en format quasi réel, d'un canal. Et Monseigneur d'Anglure vient voir cela, et vient écouter ce surintendant des gabelles, mais étrangement aussi entrepreneur. Et il est convaincu. Parce que ce qu'il voit est extraordinaire. Il voit des écluses, il voit le canal, il voit Riquet lui décrire avec énormément de passion comment il a réussi à penser la collection des eaux de la montagne noire, comment de façon vive ces eaux-là iraient jusqu'à un point de partage qu'il a déjà prédéterminé. Et c'est tellement convaincant que Monseigneur d'Anglure demande à Paul Riquet d'écrire à Colbert pour lui faire part de son projet de canal.
Il a quel âge, Pierre-Paul Riquet, à ce moment-là ?
Plus de 50 ans. Mais ça n'est passé des choses depuis son adolescence, depuis que le canal a pris source dans son imaginaire.
Le monde a changé, la France a changé.
La politique a changé. Nous sommes aujourd'hui sous le règne de Louis XIV. Depuis 1659, Louis XIV a épousé l'infante d'Espagne. Et aujourd'hui, il a un ministre, et pas n'importe lequel, qui préside aux destinées de la France.
Un certain Colbert.
Un certain Colbert. Et tout le monde sait que Colbert, là, n'a qu'une idée en tête. C'est celle de redonner à la France son lustre, de redonner à la France une économie plus solide et de faire en sorte qu'elle s'équipe. Et ça, Riquet le sait. Et Monseigneur d'Anglure de Bourlemont, c'est un pote à Colbert. Bon, je sais pas si on disait comme ça à l'époque, mais il le connaît. Et c'est à partir de ce moment-là que véritablement l'histoire, on peut dire que l'histoire commence.
Pierre-Paul Riquet s'était fendu d'une lettre à Colbert, ministre des Finances de Louis XIV, pour présenter son projet de canal. Eh bien, il va le rencontrer, Jean-François.
Eh bien, ça a marché. Grâce à Monseigneur d'Anglure, il monte à Paris, il va rencontrer au Louvre Colbert.
Alors, vous dites qu'il monte à Paris comme s'il avait pris la navette Airbus à Paris.
C'était pas si simple. Mais ça va mieux, j'allais dire, que par le passé. Oui, ça va mieux parce que la route de Toulouse à Paris est montée en poste. Ça veut dire que vous avez donc 52 relais pour couvrir la poste et de fait, on est passé de 12 jours à 5 jours. Ça veut dire qu'on peut monter en une semaine.
C'est plus confortable.
C'est pas si confortable que vous l'imaginez quand même, parce que dans les auberges, on est deux par lit, qui que ce soit. Et plusieurs lits par chambre. Mais bon, il arrive, crotté un peu par les rues de Paris qui sont pas toujours très propres, et il pénètre au Louvre chez Colbert. Et là, il déroule la carte du canal. Il l'a dessinée. Et il explique à Colbert ce que Colbert souhaitait entendre. Avec sa passion de méridional, disons-le, il va le convaincre parce qu'il dit qu'il y a consacré sa vie à déterminer et à répertorier toutes les rivières de la montagne noire. Et puis il donne tous les avantages possibles que serait un canal qui joindrait la Méditerranée à l'Atlantique. Bref, il y met tellement de passion que Colbert, à la fin de son propos, on peut le dire, il est convaincu.